Et mais d'abord, ben c'est 14h07 et c'est Monsieur Luc Lavoie qui est en studio aujourd'hui. Bonjour Luc.
Salut Ben.
Alors parlons un petit peu de François Legault.
Qui s'apprête.
Oui.
Comment dire? Il a décidé que le moment est venu de cesser de vivre en crise et de reprendre les affaires de l'État là où elles ont été laissées il y a 20 mois. Je ne veux pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais fondamentalement, on verrait la crise, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait faire.
C'est ça.
Alors là, il y a un an des élections générales, il prorogera la session parlementaire et en inaugurera une nouvelle.
Donc le il met fin à la session.
Oui, c'est ça.
Bon. Puis il fait l'équivalent d'un discours du drone,
ouais, mais... Ici, ça s'appelle un discours inaugural, je crois.
Discours d'ouverture.
D'accord.
Ouais.
Alors, et une chose que je ne savais pas, moi, je pense pas que ça existe à Ottawa, ça, dans la réglementation. La prorogation d'une session ne signifie pas que tous les projets de loi déjà déposés tombent à l'eau. Le gouvernement peut repêcher ceux qu'il veut et reprendre leur étude au stade où on était. Est-ce que ça existe à Ottawa, ça, Benoît?
Tu peux, par consentement à Ottawa, reprendre...
unanime?
Je ne sais pas si c'est unanime. Mais je pense que la procédure parlementaire, effectivement, à Québec est différente au sens où c'est le gouvernement qui peut...
Ah.
Qui peut décider au retour, donc au début de la nouvelle session.
Donc, pas le Parlement lui-même.
Je pense que c'est la distinction, Luc, mais sais-tu quoi? Il faudrait que j'aille voir le règlement à Québec. Faudrait que je le compare à celui d'Ottawa. Mais je pense que c'est ça.
Mais tout ça pour dire que c'est normal, à ce stade-ci d'un mandat, ou même s'il n'y avait pas eu de la crise probablement un peu avant ça, il aurait probablement bougé au printemps. Maintenant, il y a eu la quatrième vague, puis là, tu ne peux pas lancer des idées comme ça. Ben, bon. Alors là, ils sont convaincus, le premier ministre en tête, que c'est assez bien géré, la quatrième vague. Enfin, c'est ce qu'on voit, les chiffres qui nous sont présentés.
Ouais.
Ça se passe plutôt bien, comparé à nos voisins.
Oui, oui. Ils pensent qu'essentiellement, la quatrième vague est sous contrôle, à un point tel qu'il peut revenir à une certaine normalité.
Maintenant, moi, ce que j'aime le plus... C'est qu'il va lancer, par ce discours d'ouverture, un projet de modernisation du réseau de la santé. Et il faut se rappeler que Christian Dubé a évoqué, devant l'aile jeunesse caquiste réunie en congrès le 18 septembre, le dépôt d'un projet de loi, et je le cite, « mammouth ». Alors, il dit, il n'est pas question de jouer dans les structures, il est plutôt prévu de rendre le système plus efficace.
Là, tu cites l'article de Tommy Chouinard dans la presse de ce matin.
Oui, c'est ça. Oui. C'est effectivement.
Et pourquoi ça te réjouit qu'il veuille lancer un projet de loi mammouth?
Parce que il faut battre le fer quand il est chaud. Alors là, on sait tous, toute la population du Québec a les yeux focussés sur le système de santé. Ça fait au-dessus de 20 mois qu'on nous dit « faites attention parce que le système de santé va s'écrouler ». Puis pendant ces 20 mois-là, on en a vu de toutes les couleurs, des problèmes de rétention des employés, problèmes d'absence, problèmes de ci, problèmes... On marchait encore avec des fax. J'ai découvert ça là-dedans.
Oui, problème de circulation d'informations.
Oui, tout à fait. Problème... Et là, il faut faire attention de centralisation de l'information, pas des services. Il faut qu'il y ait quelque part un centre là, où tout ce qui se passe dans le domaine de la santé pourrait être suivi en temps réel. Et effectivement, Christian Dubé s'est fait bâtir ça par un expert en informatique.
Oui.
Maintenant, il veut l'étendre au réseau.
Mais il veut surtout, Luc, ce que tu viens de décrire, c'est très bien résumé. La possibilité d'aller chercher l'information dans les différents CISP et différents CIUSSS pour savoir ce qui se passe, pour avoir un portrait global. Mais tu sais que s'il n'y avait pas le décret sanitaire, l'urgence sanitaire, il n'aurait pas le droit d'aller chercher cette information-là. Et là, il veut, par le projet de loi mammouth dont tu parles, il veut, dans le fond, que quand on va revenir à la normale puis qu'il n'y aura plus d'urgence sanitaire, il veut pouvoir continuer à avoir l'information pour avoir le portrait global.
Mais ça m'apparaît tout à fait approprié, en fait. Je me réjouis de cela. Si ça n'a pas été fait avant, là, c'était à peu près le temps qu'on... Donc, il faut profiter, il faut battre le fer quand il est chaud.
Il faut battre le beau-frère pendant qu'il est chaud.
Ça aussi, Bernard.
Hein?
Bon. En tout cas, alors, il va y avoir aussi, dans cette nouvelle session qui va débuter, un mini-budget prévu le 22 novembre. Et là, évidemment, il y a des fois, là, n'étant pas comptable, j'ai de la misère à comprendre comment on en arrive après avoir dépensé comme on a dépensé. Et la semaine dernière, Éric Girard, le ministre des Finances, avait confié à la presse que le déficit anticipé de 12,3 milliards de dollars pour l'année en cours, sera revue à la baisse en raison de la vigueur de la relance.
Mmh.
Écoute.
Mais oui, mais c'est une bonne nouvelle.
Ah non, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle.
Mais c'est parce que l'économie roule à la planche. On est revenu à un taux de croissance au même taux de croissance que celui qui existait avant la pandémie. Exactement. Et l'autre affaire, Luc, c'est que, tu sais, les gouvernements, là, puis le gouvernement de Québec, ont fait de multiples annonces.
Oui.
Puis le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à dépenser l'argent parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre. Fait
incroyable.
Que, mettons, ils annoncent, là, je sais pas, là, ils annoncent X dizaines de millions pour l'aide psychologique. Mettons.
Ouais. Mais il n'y
a pas de psychologue. Fait que tu multiplies ces annonces-là là, dans différents domaines. Tu sais, ils annoncent qu'ils vont embaucher des éducateurs, des éducatrices spécialisées dans le réseau scolaire, tu sais, pour venir en aide aux enfants en difficulté. Ben oui, mais ils y trouvent pas. Fait que l'argent se dépense pas.
Écoute, c'est vraiment un phénomène assez particulier.
Mais hein?
C'est le temps qu'on s'y mette, là, parce que je sais là, qu'ils veulent pas entendre ça, mais il va falloir qu'ils montent le niveau d'immigration. Il va falloir qu'ils le fassent. Il n'y aura pas le choix. Il y a un moment donné que ça va craquer, tout ça. Là. Toutes ces compagnies, j'en connais, là, des entrepreneurs qui ont bâti des belles business avec 500-600 employés, comprends-tu? Puis ils sont obligés de dire non à des
contrats.
Oui,
mais ça ne peut pas être juste l'immigration.
On s'entend-tu là-dessus? Je peux dire que ça ne peut pas être juste
t'sais,
ça, t'sais. Mais ça va être ça aussi. Là.
Parce que là, écoute, là, le Québec, ça fait des années que notre taux de productivité est plus bas là, qu'ailleurs, là. Non, mais c'est important.
Vrai,
c'est
ça,
important.
C'est...
Je veux dire, maintenant, regarde, il y a deux semaines de ça, j'ai fait une entrevue dans cette émission avec un entrepreneur du Québec. Il a créé une machine, Luc, qui va dans les champs et qui permet de cueillir les brocolis à la place des travailleurs. Puis la machine est incroyable. Elle mesure la grosseur du brocoli. Puis est capable de dire, OK, tel brocoli de telle grosseur, je le cueille. Celui-là, il est trop petit, je le laisse là. Bon, mais faut investir dans cette technologie, la machinerie, l'automatisation.
C'est vrai. Ça, c'est vrai.
Parce qu'à un moment donné, on manque de bras.
Quand on parle d'un problème de productivité, les gens ont tous la même réaction. Comment? Ils sont en train de dire qu'on est paresseux. C'est pas ça du tout. La productivité, c'est la modernisation de l'économie. C'est la robotisation des gestes qui devraient être robotisés. Ouais. C'est tout ça mis
c'est
ensemble.
C'est mieux travailler et produire plus avec moins de main-d'œuvre.
Ben avec moins de main-d'œuvre.
Puis là, vous allez dire...
Avec bien des investissements là-dedans.
Ben
là,
alors, c'est ça. Faut que les entrepreneurs acceptent, par exemple, d'acheter les sacrées machines. Puis trop souvent, Luc...
Il faut que leurs finances le permettent aussi. Là.
Ouais, mais tu sais, à un moment donné, c'est le chien qui court après sa queue. Tu comprends? C'est trop facile, à un moment donné, pour les patrons de dire « Ah, faites rentrer de la main-d'œuvre d'ailleurs, là! » Ben oui.
Mais non, il n'y aura jamais de robots qui vont ramasser les fruits et légumes. Il n'y en aura pas, ça.
Ben oui, je viens de te donner l'exemple. Ben oui, mais puis ce qu'il m'a dit, c'est que ce qui est bon pour le brocoli, pourrait être bon pour le chou-fleur, pourrait être bon pour... Non, mais c'est un exemple. Il y a des restaurateurs à Québec... Ils ont acheté des robots à la place des... Bon, ben, ça va bien.
C'est une bonne idée.
Bon, mais alors c'est un mélange de solutions, Luc.
Dont l'immigration,
mais...
Mais ça fait mal à nos identitaires sur lesquels nous
sommes. Non, c'est pas juste ça. C'est que je trouve que les patrons, par moment, eux autres, si on les écoutait, là, il y aurait jamais de limite à l'immigration. Puis ça fait leur affaire parce que tu grossis le bassin dans lequel tu peux recruter. Et de cette manière-là, tu peux baisser les salaires ou tenir les salaires bas. Et ça m'énerve. Je trouve que le cheap labor, là,
c'est de dire on va couper l'immigration pour faire plaisir à nos identitaires.
Honnêtement,
ça m'énerve.
L'immigration est revenue au même niveau que sur les libéraux.
Ben ouais,
elle est à 50 000 par année.
Oui, mais ça fait trois ans. Là, il y a normalement eu une croissance.
Il faut les intégrer aussi, Luc.
Il
faut les intégrer, là, les immigrants.
Tu veux qu'on les habille pareil comme nous autres?
Non, c'est pas ça. Non, je veux qu'ils parlent notre langue, oui. Puis je veux qu'ils s'intègrent à la société québécoise. Puis c'est ben oui, mais là
on fera pas ce débat là aujourd'hui.
Mais
ben
on peut,
mais je te
on
dis
peut.
Que...
Ce que je te dis, c'est que ça, c'est, oui, l'immigration, ça fait partie de la solution, mais que les patrons à un moment donné nous disent qu'est-ce qu'ils vont faire pour faire en sorte que leurs usines soient plus productives. C'est quoi les machines que t'es prête à acheter pour produire mieux puis produire plus vite? Dis-nous-les. Oui. Amène-moi des solutions, pas juste l'immigration. Je trouve ça trop facile.
Bon.
C'est juste ça que je voulais te dire.
Bon. Tu sais ce que j'en pense, fait que maintenant que tu sais ce que j'en pense...
Ben oui, mais t'es pas en désaccord avec moi.
Des petits bouts.
T'es pas en désaccord
avec moi. Des petits bouts.
Mais quand tu veux te chicaner, t'es en désaccord avec moi, mais pas sûr.
Parlons
de la Chine.
C'est extrêmement inquiétant ce qu'on voit se dérouler sous nos yeux. Faut que les gens, sachent que quand il y a eu la fameuse grande marche qui a mené à la République populaire de Chine en 1949... La guerre interne, la guerre civile se faisait entre Mao et ses communistes, puis Chiang Kai-shek qu'on disait le nationaliste. Quand l'armée de Mao les a repoussés jusqu'à la mer, ils se sont empressés de traverser sur une île qu'on appelait l'île de Formose.
C'est ça.
Ils se sont établis là. C'était une île qui était très peu développée en passant. Et là, tous ceux qui étaient fidèles à Chiang Kai-shek sur le plan familial, sur le plan politique, ont déménagé là. Puis la Chine a dit « on l'acceptera jamais. C'est une partie intégrante de notre territoire. » Et là, c'est les Américains qui ont utilisé Formose, Taïwan,
devenu Taïwan, oui.
Taïwan, bon, ils l'ont utilisé comme une sorte de, d'avertissement à la Chine, tu comprends? C'est pas vrai que tu vas aller chercher ton voisin comme tu veux, parce que...
Puis Taïwan, entre-temps, est devenu une démocratie.
Est devenu une démocratie.
Et une puissance capitaliste.
Une puissance capitaliste renversante.
Voilà.
Comprends-tu? Ah oui. Une des plus productives, pour revenir à ce que tu disais, là. La plupart des gens le savent pas, mais leurs iPhones sont faits à Taïwan.
Avec des semi-conducteurs fabriqués à Taïwan.
Alors là, donc, il y a une sorte de danger de guerre. Il y a une sorte de guerre latente. Et là...
La température vient de monter, là.
Ouais, énormément. Parce que là, Beijing, Pékin, Xi Jinping et son gouvernement...
Oui.
Écoute, Taïwan vient d'annoncer que 52 avions des forces aériennes chinoises avaient pénétré lundi dans la zone de défense aérienne. Une nouvelle incursion record. C'est assez incroyable. Écoute, là, écoute bien, là. Et ça, c'est très épeurant. Ils reconnaissent que, bon, ils ont envoyé 36 chasseurs, les Taïwan, pour les protéger, patati patata. Mais là, ce qui a fait peur, la Chine, c'était le jour anniversaire de la Chine communiste, là, le vendredi dernier, un nombre record d'avions des forces aériennes chinoises, 38 au total, et là, j'y viens. Parmi lesquels, un bombardier H-6 à capacité nucléaire était entré dans la zone.
Non, mais attends un peu, il n'y en a pas juste un, il y en a eu 12 finalement.
Ah, ouais, 12
bombardiers qui peuvent transporter des ogives nucléaires.
Ouais, absolument, absolument. Bon. Et ce qui est épeurant, au-delà de cela en soi, c'est que par ces incursions dans le corridor de défense aérienne de Taïwan, ils font une espèce de spectacle de leur nouveau armements.
Ouais.
Comme le fameux bombardier dont je parlais tantôt.
Oui, le H-6. C'est
autrefois, la Chine ou même l'URSS utilisait des bombardiers à hélice. Là, c'était un avion turbo-réacté complètement développé en Chine. Les chasseurs qu'ils envoient, complètement développés en Chine, et comme la toute dernière technologie. Et là, ils brassent. Il envoie ses équipements-là. Puis il leur dit, faites attention, j'en ai encore, là. J'en ai plein, là. Tu es mieux de comprendre.
Là, la question que le monde se pose, c'est est-ce que la Chine communiste est en train de préparer une opération militaire pour...
Je pense que oui.
Pour envahir Taïwan.
Prendre le contrôle de Taïwan.
On va dire, Luc, ça va être un affrontement militaire majeur.
Qui se comprend que ça va être majeur?
Parce que les Américains se sont engagés à défendre Taïwan si jamais la Chine attaque.
Mais maintenant... Les États-Unis, militairement, n'ont pas été aussi faibles qu'ils le sont maintenant depuis des années. Pourquoi? Ils sortent de deux guerres, ils sont au bout de leur équipement, de leur entraînement, de leur main-d'œuvre.
Ouais.
Et la Chine, elle n'a pas fait la guerre comme les Américains depuis 20 ans.
Elle n'a pas fait la guerre.
Elle a construit des infrastructures, elle a fait des usines et tout ce que tu veux. Puis là, aujourd'hui, ils disent, gardez-nous comme il faut, là. Nous autres, là, on a tout l'équipement qu'il nous faut, on le fabrique nous-mêmes, on va rentrer à Taïwan, et si les Américains veulent venir...
On les attend. Oui, alors faut surveiller.
Ça, c'est épeurant, là,
ouais.
Parce que l'engagement américain à l'égard de Taïwan, c'était supposé être un dogme. On touchera jamais à ça, mais là, on arrête où, tu sais? La Chine est en train de s'affirmer comme étant la puissance régionale, sans aucun doute, et la plus grande puissance au monde.
En Asie.
Et pas toujours pour le mieux.
Est-ce que les Américains vont intervenir comme ils se sont engagés à le faire pour défendre Taïwan?
Et sous quelle forme et jusqu'où est-ce qu'il est bon?
Ils ont des porte-avions là-bas.
Ouais.
Et puis ils ont des sous-marins nucléaires là-bas. Mais j'ai hâte de voir.
Ils ont des forces terrestres en Corée du Sud.
Ouais.
Puis au Japon aussi.
Ils vont-ils s'en servir, ça? J'ai hâte de voir ça.
C'est une autre histoire.
En fait, non, j'ai pas hâte de voir ça. J'espère qu'on verra pas ça, parce que si on voit ça, ça va être un affrontement direct entre les États-Unis et la Chine.
Ça, on veut pas ça.
On veut pas ça. Merci, Luc.
Parce que les deux sont des puissances nucléaires, ne l'oublions jamais.
Merci, mon Luc. On se reparle demain.
Tantôt.
Après la pause, Vincent Larouche, qui a écrit un livre sur SNC-Lavalin. On ne bouge pas.